Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la tradition française de la liberté. Au programme aujourd'hui, Madame de Pompadour, une héroïne de la liberté au siècle des Lumières. Une émission de l'Institut Copé, produite par Benoît Albanque. Décisif, le XVIIIe siècle français le fut d'abord sur le plan intellectuel. L'esprit philosophique et l'idéal de liberté qu'il a porté ne se sont pourtant pas imposés tout seuls, ni sans résistance. Dans cette bataille fondamentale, les amis du progrès ont pu compter sur le soutien infaillible d'une femme, Madame de Pompadour, maîtresse officielle du roi Louis XV. Amie des philosophes et des économistes, elle a constamment soutenu leurs idées auprès du roi et essayé de les introduire dans la politique française. Dès que les philosophes et les économistes étaient attaqués, elle prenait aussitôt leur défense, comme ce fut le cas en juin 1749, quand le roi décida de faire enfermer le philosophe Denis Diderot.
Louis, tu ne peux apprécier l'esprit de Monsieur Voltaire un soir et enfermer le lendemain Monsieur Diderot. Il fait partie des hommes de lettres les plus brillants de notre siècle.
Diderot alimente l'esprit de révolte et affaiblit mon autorité.
Comment as-tu pu signer une lettre de cachet contre lui? Cet emprisonnement est indigne de toi.
Mais c'est ce Diderot qui est indigne. Il a commis une faute irréparable. Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Ce monsieur ose y prétendre que Dieu n'existe pas. Si Diderot pense que Dieu n'existe pas, alors je n'existe pas, et le royaume de France non plus.
Oui, tu me fais mal.
Tes amis sont devenus mes ennemis. Tu dois abandonner Diderot et toutes ses idées dangereuses pour le royaume. Fais-le pour moi.
Jamais.
C'était un extrait de l'excellent téléfilm Jeanne Poisson, Marquise de Pompadour, un extrait qui illustre bien le rôle qu'a joué Madame de Pompadour auprès du roi Louis XV. Lui, on le sait, ne lisait pas, il n'aimait pas les lettres, et il avait même un peu peur des intellectuels. Il craignait qu'ils ne viennent à fragiliser son pouvoir. Alors qu'à l'inverse, Madame de Pompadour côtoyait le monde culturel parisien, et en quelque sorte, on peut dire qu'elle en faisait partie. Elle connaissait parfaitement les écrits des philosophes et des économistes, et cela depuis son plus jeune âge. Voltaire, qui était un ami proche, en avait été d'ailleurs frappé, et il écrivait sur Madame de Pompadour, « Elle a plus lu à son âge qu'aucune vieille dame du pays où elle va régner et où il est bien à désirer qu'elle règne. » Alors pour une femme, c'était bien sûr à l'époque quelque chose de peu commun, et pour expliquer cette différence, il faut en revenir à ses origines. Alors Madame de Pompadour, d'abord Jeanne-Antoinette Poisson, était née à Paris en 1720. Son père, François Poisson, n'était ni noble ni aristocrate, il avait travaillé dans la finance et s'était enrichi grâce à elle. Bon, ses origines, qui étaient modestes, en tout cas pour l'époque, n'étaient pas tout à fait honteuses, mais n'étaient pas très reluisantes non plus. Alors quoi qu'il en soit, Jeanne-Antoinette reçut son éducation au couvent des Ursulines de Poissy, et à sa sortie, elle se lança dans le chant, la musique et le théâtre, avec un certain succès. À 13 ans, elle jouait dans le Zaïre de Voltaire et sa carrière commençait pour le mieux. Elle fut introduite dans les salons et côtoya peu à peu la société mondaine. Alors, dès avant de rencontrer le roi, elle s'était donc déjà familiarisée avec la scène intellectuelle de l'époque. Alors maintenant, la question qu'il nous faut considérer, quand elle rencontre le roi, devient sa maîtresse officielle et s'installe à Versailles, quelle fut son influence réelle sur le développement de la tradition française de la liberté? Alors je pense qu'elle peut être présentée en deux points principaux. D'abord son rapport aux philosophes, et ensuite celui aux économistes libéraux. Alors les philosophes d'abord, elle les côtoyait depuis longtemps. Voltaire, on l'a dit, était devenu un ami personnel, et il l'admirait beaucoup, il composa même des vers en son honneur. Bon, c'était bien sûr, peut-être en tout cas, un moyen pour obtenir des faveurs du roi, mais pas seulement, parce que Voltaire avait été pour elle un ami d'enfance. Et comme Madame de Pompadour était excellente comédienne, et très jolie femme aussi, ils étaient restés très proches. Comme on l'a vu dans l'extrait aussi, Madame de Pompadour appréciait beaucoup Diderot. Dès le début de l'aventure de l'encyclopédie, d'ailleurs, elle avait pris fait et cause pour les encyclopédistes, dont étaient beaucoup de ses amis proches, comme Quesnay et Turgot, dont nous parlerons tout à l'heure. Alors en 1752, quand l'encyclopédie est censurée et ses travaux sont arrêtés, Diderot implora l'aide de Madame de Pompadour, qui lui répondit dans une lettre où, malgré le langage officiel, on sent bien sa volonté de l'aider. Alors voilà ce qu'elle écrit. Je ne puis rien dans l'affaire du dictionnaire encyclopédique. On dit qu'il y a dans ce livre des maximes contraires à la religion et à l'autorité des rois. Si cela est, il faut brûler le livre. Si cela n'est pas, il faut brûler les calomniateurs. Mais malheureusement, ce sont les ecclésiastiques qui vous accusent. Et ils ne veulent pas avoir tort. Je ne sais que penser sur le tout, mais je sais quelle partie prendre. C'est de ne m'en mêler en aucune manière. Les prêtres sont trop dangereux. » Et à la suite, elle ajoute « Cependant, tout le monde me dit du bien de vous. On estime votre mérite, on honore votre vertu. Sur ces témoignages, qui vous sont si glorieux, je vous crois presque innocent et je me ferai un plaisir de vous obliger en toutes choses. La proscription de l'encyclopédie est un point résolu sur la déposition des dévots. Si le livre n'est pas tel qu'ils le disent, je ne puis que vous plaindre et détester l'hypocrisie et le faux zèle, en attendant que vous m'offriez une occasion de vous être utile. » Alors maintenant, on connaît et on sait que Madame de Pompadour travailla en secret et travaillait même activement à convaincre le roi de faire reprendre l'aventure de l'encyclopédie. Et cette aventure reprit grâce à son intervention. Elle essaya aussi d'aider matériellement les deux éditeurs, Diderot et d'Alembert. Frédéric II, roi de Prusse, avait été informé à l'époque de leur manque de fonds et avait offert à d'Alembert une pension de 1200 livres. Alors en l'apprenant, Madame de Pompadour demanda au roi une bourse et deux fois supérieure. Mais le roi malheureusement refusa, il considérait que d'Alembert était un ennemi de la religion. Alors on raconte même qu'un jour, tandis que le roi dînait avec elle et une petite compagnie dans les jardins de Versailles, la discussion se porta sur la poudre à canon, et que personne ne sut dire de quoi elle était faite. Madame de Pompadour demanda alors qu'on apporte les volumes de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et ceux-ci fournirent toutes les réponses aux questions que le roi et Madame de Pompadour avaient alors posées. Et celle-ci déclara au roi « Ah, le beau livre ! Sire, aviez-vous donc confisqué ce magasin de toutes les choses utiles du royaume pour le posséder seul et pour être le seul savant de votre royaume ?» Elle eut aussi de très bonnes relations avec Montesquieu, Buffon, D'Holbach, Helvétius et de manière générale avec tous les grands penseurs de son époque. Ainsi, on peut dire que si l'encyclopédie a survécu, si Voltaire resta longtemps en faveur auprès du roi, et si dans l'ensemble les philosophes des Lumières ont pu diffuser leur œuvre critique et venir à bout de cette société d'Ancien Régime qui était, comme on le sait, entravée par les distinctions d'ordre, étouffée par les impôts et paralysée par les lois, c'est aussi à Madame de Pompadour que nous le devons. Alors évoquer les impôts et la société d'Ancien Régime nous amène nécessairement au second point, les efforts de Madame de Pompadour en faveur des économistes. Alors les historiens dont on connaît par ailleurs la forte connaissance en matière d'économie se sont assez peu intéressés à sa relation avec les économistes. Et pourtant, elle nous aide à comprendre pourquoi durant la Révolution française et par la suite, les idées économiques libérales ont été si bien entendues et si bien entretenues en France, et si à la longue, au XIXe siècle notamment, elles l'ont emportée. Alors pour comprendre cette relation de Madame de Pompadour avec les économistes, il faut revenir à Versailles. Comme nous le savons, Madame de Pompadour y menait une grande vie. Elle avait des domestiques et de très larges sommes étaient allouées pour ses dépenses et pour ses frivolités. Parmi ses domestiques figurait Madame du Haussay, une femme de chambre, qui nous a d'ailleurs laissé des mémoires très intéressants et très utiles pour comprendre justement cette relation de Madame de Pompadour avec les philosophes et avec les économistes. Mais on oublie souvent que Madame de Pompadour avait aussi un médecin personnel. Le roi, en l'installant en Versailles, lui avait en effet attribué celui qui avait été, d'ailleurs, son propre médecin, le chirurgien François Quesnay. Alors un tel fait est-il important, est-il même décisif pour répondre à notre question sur la relation de Madame de Pompadour avec les idées de liberté? Alors oui, il faut le dire, c'est un détail important. Alors au moins pour deux raisons que je vais essayer de détailler ici. D'abord, Madame de Pompadour avait une relation très étroite avec son médecin. Et ensuite, Quesnay était à l'époque la référence, et voire même la référence absolue, sur les questions économiques. Alors ce poste de médecin personnel, d'abord, aujourd'hui, il peut nous sembler assez flou. Mais dans le Versailles du milieu du XVIIIe siècle, c'était une responsabilité majeure. Et c'était quotidiennement, voire même plusieurs fois par jour, qu'on consultait son médecin personnel, quand bien sûr, on avait la chance d'en avoir un. Alors à l'époque, il n'existait pas de pharmacie, il n'y avait pas non plus de produits médicaux de grande consommation. Alors dès qu'un petit tracas de santé arrivait à un membre éminent de la cour, son médecin personnel accourait pour lui prescrire souvent du repos tout simplement, ou alors un traitement quelconque. Donc un mal de tête, des fatigues, une petite douleur, au fond tout prétexte était bon pour appeler son médecin. Alors en outre, dans le cas de François Quesnay, il faut dire que lui, logé dans l'entresol des appartements de Madame de Pompadour, donc quand il n'était pas en sa compagnie, il se tenait toujours à sa disposition. Et il y a en outre un autre point qui explique aussi la proximité entre Madame de Pompadour et son médecin Quesnay. Madame de Pompadour était la maîtresse du roi. Elle se devait donc d'être constamment en forme et de paraître la plus jolie possible. Et en effet, dans les mémoires de Madame du Haussay, la femme de chambre, on lit en permanence que Madame de Pompadour venait voir Quesnay pour lui demander des conseils ou des petits traitements pour conserver le cœur du roi. Alors François Quesnay, maintenant, il faut le dire, il était loin d'être un inconnu en théorie économique. C'était lui déjà qui avait donné les articles fermiers et grains pour les premiers volumes de l'encyclopédie. Alors ces articles peuvent nous paraître accessoires maintenant, mais c'était des questions centrales à l'époque. Et l'article blé, qui s'y rapporte d'ailleurs, avait été écrit par Voltaire. Donc c'est dire l'importance de ces sujets. Alors avec le soutien de Madame de Pompadour, Quesnay avait publié aussi un tableau économique et les avait fait imprimer avec les presses du roi et sous les yeux du roi. Alors Madame de Pompadour vanta cette œuvre auprès du roi qui, lui, semble-t-il, n'avait pas bien compris. Elle le persuada même tellement du talent de Quesnay qu'il se mit à l'appeler son penseur. À partir de 1756-1757, Quesnay entra en contact avec d'autres économistes parisiens et, de manière générale, français, ayant abouti aux mêmes conclusions que lui. Et ils formèrent alors la première école de pensée économique de l'histoire, ce qu'on appela plus tard les physiocrates. Là encore, Madame de Pompadour avait été très influente. Dans sa biographie de Madame de Pompadour, Christine Algrand écrit par exemple « Madame de Pompadour encouragea Quesnay à publier ses vues novatrices en économie et à maintenir des liens avec la sphère intellectuelle parisienne. » Et c'est grâce à ces liens avec la sphère intellectuelle parisienne que se créa l'école physiocratique. C'est donc indirectement grâce à Madame de Pompadour. Avant, Quesnay était resté ce qu'on pourrait appeler un économiste de chambre. Il raisonnait pour un public réduit, voire très réduit, qui était fait de Madame de Pompadour et de Madame du Haussay, la femme de chambre. Alors, désormais, il visitait les salons parisiens et recevait les intellectuels chez lui. En 1757, il reçut notamment un certain Mirabeau, qui allait beaucoup compter par la suite et qui n'était pas non plus un inconnu. Le marquis de Mirabeau, le père du héros de la Révolution, était alors tout simplement l'économiste le plus connu en France. Un an auparavant, il avait publié « L'ami des hommes », traité sur la population, qui malgré son titre assez vague, était au fond un livre d'économie pure. Mirabeau y défendait le libre-échange et décrivait avec une certaine précision les mécanismes de marché. Alors au niveau politique néanmoins, il réclamait un retour à une ancienne forme d'aristocratie. Une aristocratie qui, au fond, habiterait sur ces terres, serait d'une certaine façon préoccupée par les paysans qui y travaillent et bien sûr paierait des impôts. Alors en 1757, Mirabeau se rend à Versailles, dans l'entresol de Madame de Pompadour, et y rencontre Quesnay. Alors la discussion nécessairement est vive, les deux ont des positions tout à fait arrêtées sur les questions économiques, mais à la fin, quelque chose qui n'arrive d'ailleurs jamais dans l'histoire de la pensée économique, mais qui arriva au moins une fois, Mirabeau se rend. Il admet tout à fait clairement ses erreurs et se range complètement à la théorie de Quesnay. Alors c'était là le premier très bon résultat du bon conseil de la marquise de Pompadour. Cette conversion d'ailleurs a marqué un véritable tournant, non seulement dans l'histoire de la pensée économique, mais aussi dans l'histoire tout court. Un auteur comme Henri Ripper, qui a écrit une étude sur le marquis de Mirabeau, a parfaitement exprimé l'importance de cette conversion. Alors malgré sa sympathie pour son champion, il écrit « Ce n'était pas seulement un auteur qui était confondu par un autre, ni même un grand seigneur qui s'inclinait devant un plébéien, c'était toute la vieille société aristocratique, avec ses divisions et ses préjugés, ses classifications sociales arbitraires et ses injustes privilèges, qui était vaincue par une société nouvelle, dont l'égalité et l'unité allaient être la base, et qui arborait sur son pavillon ces trois mots « liberté », propriété, sûreté. Le jour où Quesnay fit de ce fier patricien qui venait de prêcher le retour aux anciennes formes sociales, le plus fanatique et le plus convaincu de ses disciples, Il n'avait pas seulement triomphé d'un homme et d'un auteur, mais de toute une société chancelante que ses doctrines, jointes à celles des philosophes et du contrat social, allaient emporter dans la tourmente révolutionnaire. Ainsi, en suivant le conseil de Madame de Pompadour, Quesnay venait en effet d'obtenir le plus dévoué et en effet aussi le plus brillant de ses disciples. D'autres, par la même méthode et en suivant le même conseil, allaient bientôt suivre les noms se pressent, Dupont de Nemours, Le Trône, Mercier de la Rivière et aussi un intendant du Limousin, assez fameux, Anne-Robert Jacques Turgot. Et c'est dans l'entresol de Madame de Pompadour que tous ces économistes vont d'abord se rencontrer, puis à la suite travailler ensemble et produire leur œuvre qui effectivement était éminemment révolutionnaire. Ils voulaient, on va le rappeler rapidement, une économie de laisser-faire, donc sans intervention de l'État dans l'économie, et également des impôts faibles. Et ils en discutaient tout à fait librement à l'intérieur même du château du roi, qui alors menait une politique tout à fait contraire. Alors, la discussion était alors très libre, en effet, dans l'entresol de Madame de Pompadour, et Madame du Hausset nous a raconté quelques-unes de ces discussions. Alors en voici une par exemple. Un jour, Monsieur de Marigny se trouva chez Quesnay, où j'arrivais. Il parlait de Monsieur de Choiseul. « Ce n'est qu'un petit maître, dit le docteur. Et s'il était plus joli, il serait fait pour être un favori d'Henri III. » Le marquis de Mirabeau entra, ainsi que Monsieur de la Rivière. « Ce royaume, dit Mirabeau, est bien mal. Il n'y a ni sentiment énergique, ni argent pour les suppléer. Il ne peut être régénéré, dit alors la Rivière, que par une conquête, comme à la Chine, ou par quelque grand bouleversement intérieur. Mais malheur à ceux qui s'y trouveront. Le peuple français n'y va pas de main morte. Ces paroles me firent trembler et je m'empressai de sortir. » Régénérer la France et une phrase comme « Le peuple français n'y va pas de main morte », c'était bien sûr là, 30 ans avant la Révolution, des aperçus incroyablement prophétiques, mais aussi très osés. Donc on peut conclure que la parole était très libre, malgré le lieu où se tenaient ces discussions. Mais au fond, ces économistes libéraux ne se préoccupaient pas beaucoup de la vie de Versailles. Et Aymar Montel, un proche des économistes, a aussi raconté cela dans ses mémoires. Alors voilà ce qu'il écrit. Tandis que les orages se formaient et se dissipaient au-dessous de l'entresol de Quesnay, il griffonnait ses axiomes et ses calculs d'économie rustique, aussi tranquille, aussi indifférent à ses mouvements de la cour, que s'il en eût été à 100 lieues de distance. Là-bas, on délibérait de la paix, de la guerre, du choix des généraux, du renvoi des ministres, et nous, dans l'entresol, nous raisonnions d'agriculture, nous calculions le produit net, ou quelquefois nous dînions gaiement avec Diderot, D'Alembert, Duclos, Helvétius, Turgot, Buffon, et Madame de Pompadour, ne pouvant pas engager cette troupe de philosophes à descendre dans son salon, venait elle-même les voir à table et causer avec eux. En effet, Madame de Pompadour n'était jamais très loin, et pourtant elle prenait de grands risques à les défendre et à s'afficher aussi proche d'eux. Chaque écrit de ces économistes, au fond, était une attaque directe contre la politique menée à l'époque. Quesnay, qui était habitué à la prudence ou à une certaine forme de prudence par sa vie à la cour, ne critiquait jamais le roi de façon directe. Mais pourtant, même chez lui, les critiques étaient partout. Qu'on se rappelle simplement le tableau économique dans lequel il avait inséré cette épigraphe sur la page du titre « Pauvre paysan, pauvre royaume, pauvre royaume, pauvre roi ». Les disciples de Quesnay, eux aussi, étaient assez généralement prudents, et souvent ils se cachaient. Dans les éphémérides du Citoyen, par exemple, qui était le journal officiel des physiocrates, tous signaient leurs articles avec une lettre. Dupont de Nemours utilisait C, Le Trône utilisait M, Mercier de la Rivière utilisait G, Mirabeau utilisait F, et Quesnay, qui donnait beaucoup d'articles, utilisait soit A, H, N, ou même des pseudonymes comme Monsieur de Lille, ou Monsieur Nisac. Mais parfois ils allaient trop loin, comme Voltaire allait trop loin parfois, comme Diderot aussi allait trop loin, et dans ces cas-là, Madame de Pompadour devait intervenir auprès du roi pour le convaincre au fond d'être clément. Ben, cela arriva notamment lors de la publication de la théorie de l'impôt de Mirabeau, un livre qui avait été écrit d'ailleurs en collaboration entre Quesnay et Mirabeau. Et Madame du Hausset, encore une fois, a bien décrit cet événement et a bien décrit également le rôle qu'a joué Madame de Pompadour, on pourrait dire comme à son habitude, dans cette affaire. Alors voilà ce qu'elle écrit. Un jour, je trouvais Quesnay au désespoir. Mirabeau, me dit-il, est à Vincennes pour son ouvrage sur l'impôt. Ce sont les fermiers généraux qui l'ont dénoncé et qui l'ont fait arrêter. Sa femme doit aller aujourd'hui se jeter aux pieds de Madame de Pompadour. Quelques moments après, j'entrai chez Madame pour sa toilette et le docteur y vint. Madame lui dit « Vous devez être affligé de la disgrâce de votre ami Mirabeau et j'en suis fâché aussi. » Kenny répondit « Madame, je suis bien loin de lui croire de mauvaises intentions. Il aime le roi et le peuple. » « Oui, dit-elle, son ami des hommes lui a fait beaucoup d'honneur. » En ce moment, entra le lieutenant de police, et Madame lui dit « Avez-vous vu le livre de Monsieur de Mirabeau ?»« Oui, madame, mais ce n'est pas moi qui l'ai dénoncé. »« Qu'en pensez-vous ? » lui dit madame. « Je crois qu'il aurait pu dire une grande partie de ce qu'il a dit en termes plus ménagers. Il y a entre autres deux phrases au commencement. « Votre Majesté a 20 millions d'hommes, plus ou moins. Elle ne peut en obtenir des services qu'à prix d'argent, et il n'y a point d'argent pour payer leurs services. » « Quoi ? Il y a ça, docteur ? » dit madame. « Cela est vrai, ce sont les premières lignes, et je conviens qu'elles sont imprudentes. Mais en lisant l'ouvrage, on voit qu'il se plaint de ce que le patriotisme s'éteint dans les cœurs et qu'il voudrait le ranimer. » Le roi entra, nous sortîmes, et j'écrivis sur la table de Kenney ce que je venais d'entendre. Je revins ensuite pour continuer la toilette, et madame me dit « Le roi est fort en colère contre Mirabeau, mais j'ai tâché de l'adoucir, et le lieutenant de police a fait de même. » On pourrait multiplier ces exemples à foison, et au fond, tous montreraient le rôle, et le rôle fondamental qu'a joué Madame de Pompadour auprès des économistes. Et il serait autant de raisons d'admirer cette femme, qui aurait pu se contenter d'être simplement la maîtresse du roi, mais qui essaya aussi, et à ses risques et périls, d'être, d'une certaine façon, la représentante, à Versailles, de l'idée de liberté que défendaient les philosophes, notamment en matière de politique, et les économistes, bien sûr, en économie. Avec raison, les économistes physiocrates, d'ailleurs, lui furent toujours tout à fait reconnaissants. Et pour clore cette émission, nous pouvons citer la dédicace très élogieuse que Dupont de Nemours, le bras droit en quelque sorte de Quédé, publia en tête d'un ouvrage réclamant la liberté absolue du commerce. Cette citation fera bien sentir ce que nous devons, au fond, à cette femme. À Madame la Marquise de Pompadour. Madame, j'ai entrepris de traiter une matière si intéressante pour la nation et si conforme à vos vues pour le bien public que j'ai cru pouvoir aspirer à l'honneur de vous présenter mon travail. La protection décidée que vous accordez à ceux qui s'appliquent à l'étude de la science économique lui assurait en quelque façon le droit de paraître sous vos auspices, et vous avez daigné en recevoir l'hommage. Vous avez vu naître, madame, cette science importante et sublime avec laquelle on pèse le destin des empires, dont la félicité sera toujours plus ou moins grande en raison de ce qu'on s'y attachera plus ou moins à l'observation de l'ordre invariable que la nature a mis dans la dépense et dans la reproduction des richesses. La justesse de votre esprit vous en a fait sentir les principes. La bonté de votre cœur vous les a fait aimer, et c'est à vous que le public en doit la première connaissance, par l'impression que vous avez fait faire, chez vous et sous vos yeux, du tableau économique et de son explication. Cette précieuse anecdote vous a acquis des droits sacrés sur la bénédiction des peuples. Quelle marque plus touchante de leur reconnaissance que les inquiétudes et les alarmes qui se sont répandues sur tous les ordres des citoyens pendant la maladie cruelle qui a paru menacer vos jours. Voilà, madame, l'encens véritablement flatteur pour une âme élevée. Il était digne de vous. Je suis avec respect, madame, votre très humble et très obéissant serviteur Dupont de la Société Royale d'Agriculture de Soissons. Thank you.